Mesdames, messieurs, toutes les personnes entre et au-delà.
Bonsoir Paris.
Salut. Yeah. Alors bienvenue.
C'est symptomatique de la présence des lobbies dans les cercles du pouvoir.
I'm like so gay, dude.
Si vous dites à un homosexuel, vous êtes homosexuel, il n'a pas de souci.
Je pensais avoir tout vu, ou presque, des agissements des lobbies.
Si tu dis un homosexuel, tu es une folle, c'est pas le même registre.
Et je crois qu'il faut toujours écouter les personnes concernées.
Moi je sais bien quand c'est sexiste, je me rends compte assez vite quand même.
C'est toujours les plus à même de raconter leurs histoires.
Le lobby sur Radio Campus Paris.
Et bonsoir à tous, vous écoutez Le Lobby, une heure de radio en direct par une petite bande de queeros qui tente de mettre des paillettes dans la vie des autres queeros, ce qui n'est pas toujours une tâche facile par les temps qui courent. Lui, en revanche, il met des paillettes dans ma vie et pas que dans la mienne. Lui, c'est le beau brun qui s'est installé à mes côtés. Et non, exceptionnellement, ce n'est pas Victor qu'on embrasse fort, c'est Diego. Comment ça va, Diego ?
Bah bonjour, je suis trop heureux d'être là.
Adorable. Alors, il y a du monde autour de la table ce soir.
Oui, avec nous, alors du coup, il y a Olga, Auguste, Margot et Xavier. Salut à vous trois.
Salut.
Salut.
Bonsoir.
Olga Auguste, en deux mots, au programme de l'édito testo, on parle du livre interdit.
Oui, mais on va dérouler sur autre chose parce qu'il y en a marre en fait.
Donc rendez-vous à 20h15 pour écouter ça, et puis on finira à -5 en musique avec Margot qui nous fait son retour. De quoi on parle ?
Je vais vous raconter une histoire un peu triste, mais une histoire importante.
Wow.
Dans quelques instants, place à l'actualité du mois, les actes LGBT-phobes sont en hausse, n'est-ce pas Colin ?
Absolument, c'est ce que disent les récents chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est aussi ce qu'affirme le dernier rapport de SOS Homophobie, plus 13% d'actes LGBT-phobes en 2023 par rapport à 2022. On sera en ligne tout à l'heure avec Julia Torlet, présidente et porte-parole de l'association.
Et puis à 20h30, place au disque du lobby avec XP, qui est ton invité ce soir.
Eh bien, on continuera dans la vague Internet Wave initiée la semaine, le mois dernier avec les Sidler, et on recevra Past Life Romeo.
Super, on a hâte. À tout à l'heure.
À tout à l'heure. Et avec nous jusqu'à 21h, une invitée est en studio. Et quelle invitée ? Vous êtes drag queen, on vous découvre l'année dernière dans Drag Race France, où vos prestations sont très remarquées, notamment en danse, votre spécialité. Mais vous n'êtes pas seulement une danseuse. Drag queen gitane, vous faites un pari, celui de vous lancer dans le rap. Ça donne un EP assez bluffant, festin, il vient de sortir. Et on est ravis ce soir de vous compter parmi nos convives. Bonsoir Piche.
Et bonsoir. Merci beaucoup de l'accueil, je suis ravie d'être là.
Radio Campus Paris.
Et bien nous aussi on est ravis que vous soyez là, bienvenue dans le lobby, on est ravis de vous accueillir. Festin, c'est donc le nom de votre EP très attendu qui est sorti donc le 17 mai dernier. Comment est-ce que vous vous sentez 4 jours après la sortie ?
Oh bah la tête dans les choux, hein. je pense que c'est un peu tout le monde quand on sort de la musique et tout ça.
Je ne sais pas, tellement je ne peux pas parler à votre place.
Ah bah il faudrait vraiment que vous n'hésitiez pas à sortir un EP, hein, parce que ça vaut le coup, hein, c'est quand même sympathique. C'est assez sympathique. C'est stressant et puis c'est mon tout premier, donc forcément un peu vraiment le stress pour le coup que ça sorte et tout ça, mais assez content. Je pense que c'est, j'aurais peut-être probablement jamais d'enfant parce que j'en veux pas, mais si j'en avais un, j'ai l'impression que c'est un peu ça, c'est quand ça s'en va et que c'est fini.
Un accouchement.
D'une certaine manière.
Ouais. Après c'est pas tout à fait fini avec l'enfant. Après,
non,
hein, quand
non,
même,
non,
bah
je compte bien l'élever aussi, ce petit EP-là.
Piche, au moment où vous participez à l'aventure Drag Race France, donc l'année dernière, le drag, c'est presque encore nouveau pour vous. Vous êtes présentée comme l'une des baby drags de la saison.
Yes.
Ça a évolué, j'imagine, vous n'êtes plus du tout une baby drag. Comment est-ce qu'en tout cas, ça s'est mis en place chez vous,
parce
que vous
avez une... Je suis passé d'un an d'expérience à deux, c'est déjà beaucoup.
plus 100%.
Ça m'a énormément formé, pour le coup. Bah, Drag Race, c'est quand même très, très formateur. On est entouré de légendes, hein, faut dire ce qu'il y a, hein, Kiona, Cookie Kenty, Rose Pounani, etc. C'est quand même des gens qui impressionnent et qui donnent plein de tips, comme Vespi aussi, qui m'a donné énormément de tips et sans qui je ne serais absolument pas jolie. C'est important de le préciser.
Finalement, vous avez été en tout cas une redoutable concurrente, notamment sur les challenges de danse, donc on va en reparler. Quel regard vous portez aujourd'hui sur cette expérience ?
Un regard très bienveillant. En vrai, c'est une super expérience, Drag Race. Je pense que c'est comme toutes les expériences qui sont très, très, très intenses. Ça nous fait évoluer, ça nous fait grandir, ça nous fait rentrer dans des introspections assez importante, on se dit qui je suis, pourquoi je fais ça et où je vais, et quand on trouve la réponse, en général on se sent bien, donc je dirais que c'est un regard vraiment très bienveillant que j'ai par rapport à mon expérience. En plus moi ça s'est hyper bien passé, franchement. Enfin, j'ai vraiment pas de quoi me plaindre, donc je suis vraiment contente.
Pour les gens qui vivraient dans une grotte et qui ne connaîtraient pas Piche et ou Drag Race France, comment est-ce qu'on définirait votre drag en quelques mots?
Je dirais camp, forcément. Je dirais référencé. Je dirais. J'aime pas ce mot, mais genre. Je vais pas dire street. C'est pas ça que. Enfin, quand je dis street, c'est le côté. Brut de décoffrage. Mm-hmm. Je dirais un peu plus, quoi. Un peu rentre dedans, tout ça. et complètement what the fuck.
Et on va avoir l'occasion d'en reparler jusqu'à 21h. On vous retrouve dans un instant donc pour parler de Festin, votre premier EP qui vient de sortir, mais tout de suite place à l'actualité queer du mois de mai.
Le lobby. Radio Campus Paris.
Alors vendredi dernier, Pige, vous sortiez donc ce premier EP. C'est pas un hasard puisque c'était donc la journée internationale de lutte contre les LGBT-phobies. LGBT-phobies auquel, comme chaque année, l'association SOS Homophobie consacrait ce même jour son rapport annuel. Bonsoir Juliette Orlet.
Bonsoir.
Vous êtes donc présidente et porte-parole de SOS Homophobie. Alors dans ce rapport, vous dénombrez 2377 cas de LGBTI-phobie sur l'année 2023. C'est beaucoup plus que les années précédentes. En 2022, vous comptiez 1506 témoignages et c'était à peu près le même nombre en 2021. Comment est-ce que vous expliquez cette augmentation soudaine ?
Alors l'augmentation, effectivement, elle est assez impressionnante, même si finalement les chiffres sont assez peu fiables, et c'est l'un des problèmes qu'on a quand on parle de discrimination LGBTI-phobe, dans la mesure où nous, chez SOS Homophobie, on dresse un constat, un rapport à partir du nombre d'appels qu'on a sur la ligne. Donc tout le monde n'appelle pas SOS Homophobie. Le gouvernement en parallèle sort ses chiffres, mais ce sont des chiffres en fonction des dépôts de plaintes, et là encore, tout le monde ne dépose pas plainte. Donc déjà, il y a quelque chose qui est faussé sur la question des chiffres à partir de là. On n'arrive pas à avoir un bilan complet des LGBTI-phobies et ça, c'est un problème. Bon, néanmoins, si on garde quand même l'ensemble, il y a effectivement une augmentation. Il y a une augmentation de la prise de parole des victimes. Les victimes prennent davantage la parole, disent davantage quand elles sont victimes. Donc ça fait gonfler le nombre de cas recensés, du moins. Et puis après, pour ce qui est des cas concrets, il y a de toute façon une augmentation qui est due à un repli très conservateur. On sent dans la société une montée des opinions très hostiles, une montée de la droite, de l'extrême droite, d'opinions très tranchées. Et ça, évidemment, ça favorise des cas qui vont se répercuter dans la vraie vie de LGBTI-phobie.
Quand on parle de LGBTI-phobie, on parle autant d'agression verbale que d'agression physique. Est-ce qu'on constate une évolution en la matière ? Est-ce qu'il y a une tendance que vous auriez observée ? Je sais que récemment, on a beaucoup entendu parler dans différents médias d'attaques physiques assez violentes. Donc voilà, est-ce que vous constatez une évolution dans le type d'attaque, entre guillemets ?
On constate des renforcements dans les types d'attaques, c'est-à-dire que les agressions verbales, elles sont toujours très nombreuses et elles sont relativement stables. Les agressions physiques, elles se renforcent. Alors, ce qui est constant, c'est que les agressions physiques, elles sont avant tout perpétrées contre des hommes cis qui sont gays, bi ou supposés gays ou bi. Ce sont toujours eux qui subissent le plus d'attaques physiques. Ça, c'est une constante depuis plusieurs années et c'est toujours le cas. Par contre, il y a une chose qui se renforce, c'est ce fameux phénomène de guet-apens dont on parle de plus en plus et dont il faut parler de plus en plus. Le guet-apens étant déjà un phénomène ancien, mais là, il a tendance à devenir de plus en plus fréquent, de plus en plus violent. C'est évidemment accentué par la facilité qu'offrent les réseaux sociaux, les applications de rencontres et les sites dont on demande, notamment pour le site Coco, la fermeture depuis des mois et qui n'est toujours pas effective. Donc ça renforce la tendance.
D'ailleurs, sur le sujet des guet-apens homophobes, on renvoie évidemment nos auditeurs au l'excellent documentaire de Sarah Brett, Mathieu Manudex et David Perrotin sur le sujet pour Mediapart qu'on avait reçu dans l'émission. Dans votre dernier rapport, vous montrez que le dernier pic de témoignages, c'est l'année 2013, avec plus de 3000 cas de LGBTI-phobie recensés. C'est évidemment aussi l'année de la manif pour tous. Et justement, aujourd'hui, beaucoup de personnes LGBT comparent la période actuelle, caractérisée par une forte offensive contre les personnes trans, à cette fameuse période de 2012-2013. Qu'est-ce que vous en pensez, sachant que dans votre rapport, la transphobie continue d'être un sujet majeur avec 21% des témoignages reçus ?
C'est effectivement très préoccupant, parce que moi je suis tout à fait d'accord sur l'idée que là on est sur le seuil d'une situation qui est celle de 2012-2013, très clairement, parce qu'on a exactement les mêmes signaux. C'est-à-dire que comme en 2012-2013, on est en train de laisser une place à une parole qui est transphobe aujourd'hui, qui était homophobe hier, avec le même mécanisme, c'est-à-dire qu'on donne une parole médiatique à des gens qui ont simplement des paroles de rejet ou des paroles haineuses ou des paroles d'appel à l'hostilité. On leur donne une tribune médiatique, on leur donne beaucoup de temps dans les médias et ça, c'est évidemment extrêmement dangereux. De la même manière aussi, on crée un débat sur des points qui ne devraient pas prêter à débat. Les gens se mettent à débattre sur la légitimité de l'existence des personnes trans. Il n'y a pas de débat à avoir là-dessus. C'est-à-dire que les personnes trans existent, ça c'est un fait, elles doivent être respectées, c'est un fait, on doit protéger leurs droits, leur en ouvrir davantage, c'est un fait aussi, mais voilà, on crée des débats là où il n'y en a pas, et ça c'est exactement le même mécanisme. Et puis peut-être le dernier point commun qu'on peut souligner, c'est l'argument qui consiste à prendre le parti des enfants en théorie. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, on a dit le mariage va nuire aux enfants. Aujourd'hui, on dit les transidentités et le droit des personnes trans va nuire aux enfants. C'est exactement la même chose qui revient aussi.
Et justement, l'association SOS Homophobie a porté plainte contre les deux autrices du livre Transmania, dont on a parlé dans l'émission le mois dernier, un livre rempli d'attaques transphobes qu'on pourrait qualifier de complotistes. Vous parlez dans le rapport de la haine en ligne, qui est très représentée dans les signalements que vous recevez, c'est 23% des témoignages. Et vous notez justement une nouveauté, c'est l'émergence de discours complotistes.
Oui, c'est effectivement une nouveauté, alors qui est très en phase et très cohérente avec une évolution générale de la société, dans la mesure où ces discours complotistes, pas que sur les questions LGBTI, mais de manière générale, on les entend de plus en plus. Et c'est une évolution qui met aussi en lumière une autre tendance qui est particulièrement préoccupante, c'est que dans la question de la haine en ligne, parfois, il y a des individus qui s'en prennent à des personnes ciblées. Mais ce n'est pas le cas le plus fréquent. En fait, le cas le plus fréquent, c'est quand, en ligne, les gens tiennent des propos généraux en disant « la communauté LGBT, les personnes LGBT, sur un propos très général. C'est ce qu'on appelle de la LGBTI-phobie générale. Et ça, c'est quelque chose de plus en plus prégnant sur les réseaux sociaux et en ligne. Et pour le coup, ça rejoint totalement les théories complotistes qui vont tenter d'affirmer que la communauté LGBTI pilote telle ou telle chose, est responsable de telle ou telle chose, etc.
Pour finir, comment ça se passe pour signaler des cas de LGBTI-phobie qui nourriront donc le prochain rapport de SOS Homophobie qui sort donc tous les 17 mai ?
Alors, SOS Homophobie recueille les témoignages par plusieurs dispositifs. Il y a le dispositif historique qui est la ligne d'écoute. Donc, on peut contacter la ligne d'écoute sur ses horaires d'écoute. Et donc là, on a directement un interlocuteur, une interlocutrice au téléphone. Il y a la même chose en déclinaison de chat, donc un chat écoute qui permet de dialoguer aussi avec quelqu'un, mais par écrit. Et puis enfin, il y a un troisième dispositif qui est une plateforme de dépôt de témoignages directement en ligne. Donc là, il suffit d'aller sur le site internet de SOS Homophobie, on rédige son témoignage, on l'envoie, et de l'autre côté, des bénévoles de SOS Homophobie récupèrent le témoignage et peuvent le traiter.
Et l'intégralité du rapport est à lire sur sos-homophobie.org. Près de 200 pages avec des chiffres clés, des témoignages et des analyses. On mettra le lien sur radiocampusparis.org à la page de l'émission. Merci beaucoup Julia Torlet. Je rappelle que vous êtes présidente et porte-parole de l'association SOS Homophobie qui fête d'ailleurs ses 30 ans cette année. Merci beaucoup. Et puis l'actualité queer en bref, c'est un autre rapport paru le 14 mai dernier qui émane de l'Agence pour les droits fondamentaux de l'Union européenne. À la veille des élections européennes, le constat est clair, la violence contre les personnes queer augmentent partout sur le vieux continent. On en parle ce vendredi dans notre podcast hebdomadaire. 20h13 et c'est le comeback qu'on n'espérait plus. C'est à croire qu'il faut inviter des dragues pour le faire venir dans ce studio. C'est l'heure d'Olga Auguste et de son édito Testo. C'est à toi.
C'était l'heure de mon roast. Super. Bonsoir à tous. Alors oui, tout d'abord, je vous prie de m'excuser pour cette longue absence. Le drag est la sortie du salariat pour me consacrer à mon king m'ont pas mal occupé ces derniers mois. Je suis ravie de vous retrouver ce soir, même si je vais évidemment être à nouveau obligée de parler de ces deux cavalières de l'apocalypse cis-hétérosexuelle, Tulipster Fée Dora de Mouton. Genre, si elles nous pondent pas une nouvelle dinguerie tous les 2 à 3 mois, elles explosent en fait, je sais pas, enfin bref, si seulement. Mais plus sérieusement, non contente de publier son torchon Terfmania chez un éditeur d'extrême droite avec sa BFF, Marguerite nous a dit quoi encore l'autre jour ? Ah oui, que le féminisme l'avait rendue grosse et moche. S'il fallait encore un argument pour vous convaincre que la lutte contre la grossophobie et les injonctions faites au corps sont intrinsèquement féministes, je sais pas ce qu'il vous faut. Hein. Bref, en vrai, flemme de parler encore de ce pathétique duo au service du patriarcat, mais qui pour le faire correctement ? À part les médias communautaires queer et quelques publications très à gauche dont la diffusion est bien marginale face au plateau d'argent sur lesquels on leur sert la soupe à la télévision. Il n'y a hélas pas grand monde. Alors j'ai décidé que ce soir, j'allais m'adresser à mes consoeurs et confrères journalistes. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. Pour la majorité d'entre vous, vous me faites honte. Quitte à faire partie des professions les plus détestées, autant que ce soit parce qu'on fait bien son métier, non ? L'objectivité journalistique n'existe pas. C'est un ressort brandi par la droite pour justifier d'interviewer les pires interlocutrices possibles et répandre leurs idées nauséabondes l'air de rien. Mais notre devoir de journaliste, c'est au minimum d'avoir de la contradiction, de tendre le micro aux deux camps pour laisser le public faire son avis en posant les bonnes questions et au mieux ne pas donner la parole aux personnes qui incitent à la haine, ce qui est puni par la loi, encore moins leur laisser tout l'espace. Encore faudrait-il pour cela avoir, je sais pas, un petit peu de discernement avoir une conscience, je ne sais pas. N'avez-vous pas lu la grande quantité de témoignages d'enfants LGBTQI+, ayant grandi dans le trauma de la Manif pour tous qui sont sortis depuis 2022? Ne voyez-vous pas les chiffres des agressions LGBTQI-phobes grimper chaque année depuis que cet assaut réac a réussi à se rendre crédible par son omniprésence médiatique? Il se passe exactement la même chose avec les personnes trans dans le viseur actuellement. Et, question rhétorique, que faites-vous exactement de votre responsabilité face à ça? Vous devriez être mortifié de contribuer à la déshumanisation d'une minorité en vue de rendre sa persécution légitime aux yeux du grand public au lieu de remplir votre mission d'information de celui-ci. Alors, des fois que ce soit un manque d'inspiration, je vais vous souffler quelques pistes de questions.
Pourquoi la corrida ? Pourquoi le moteur cesse pas ? Pourquoi les fraises d'Agada ? Pourquoi le sida ? Et surtout, pourquoi le pape ?
Et oui, avant de devenir des gauchistes mous qui ne savent plus que parler de sodomie pour dénoncer la Macronie, les Vrigels écrivaient de bonnes chansons. Et c'est quoi le rapport avec le schmibic, vous me demanderez? Bah, c'est littéralement le mode d'emploi du journalisme, en fait. Flexé comme une féministe badass qui demande à Jean-Michel de lui expliquer sa blague misogyne pour le regarder bafouiller et surtout enchaîner les « pourquoi ?» gênant comme un gosse insistant. Pourquoi êtes-vous si obsédé par les personnes trans et ce qu'elles ont entre les jambes? Pourquoi le fait de considérer les femmes comme des vagins sur pattes ne vous fait pas penser au discours des masculinistes? Pourquoi qualifiez-vous les transitions chirurgicales de mutilation alors que vous n'avez jamais eu l'ombre d'une pensée pour les personnes intersexes qui sont opérées sans leur consentement pour préserver une fausse binarité physique homme-femme? Pourquoi mettez-vous autant l'accent sur le regret de transition, moins d'1% d'occurrence, alors qu'il est à 12% chez les personnes tatouées, 14% pour les personnes ayant subi une opération chirurgicale du genou ou du dos, ou encore de 10% concernant le fait d'avoir eu des enfants? De la même manière, de la même manière, on pourrait demander pourquoi faire le choix de demander à Marion Maréchal Le Pen ce qu'elle pense du fait qu'une drag queen porte la flamme olympique en la nommant à heure de grande écoute? Pourquoi ni Macron ni Attal ne se sont même donné la peine de poster un tweet hypocrite le 17 mai, journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, en 2024? Ou encore, pourquoi parle-t-on plus de la non-binarité de l'artiste ayant gagné l'Eurovision cette année que du fait que le concours ait banni la Russie immédiatement après son invasion de l'Ukraine, mais n'en fasse pas de même concernant la démarche génocidaire d'Israël à Gaza? Vous voyez l'idée? Si vous avez envie d'incarner la dissonance cognitive que d'être à la fois journaliste et de droite, bah, c'est votre problème de lecture du monde, hein, ça vous appartient. Et surtout, faut pas confondre droite et droiture. Ne pas oublier l'éthique à la manière d'un Jacques Toubon, ancien ministre de Chirac quand même, qui a été un défenseur des droits exemplaires car il était conscient de son rôle et de son pouvoir. Entendons-nous bien, je suis pas en train de vous demander d'aller vous faire tuer de mort tout à fait naturelle en faisant une enquête sur la réélection de Vladimir Poutine en Russie. Hein. D'autres qui exercent la même profession que vous y ont déjà laisser leur plume. Juste prière de retrouver votre colonne vertébrale égarée quelque part afin d'accomplir votre mission d'information avec intégrité et déontologie. Vous ne devez pas amplifier les paniques morales, mais les débunker. Et pour ce qui est des bouffonneries, laissez plutôt faire les drag queens, king et queer dont le courage et le talent devraient vous inspirer.
Merci beaucoup Olga Auguste et je vous invite pour poursuivre cette réflexion à écouter notre épisode avec Anaïs Perrin-Prével qui en 30 minutes désingue quelques arguments transphobes qu'on entend de plus en plus ces jours-ci. Rendez-vous sur toutes les applications de podcast et sur radiocampusparis.org pour lire cet entretien. Allez, maintenant que ça c'est fait, on va essayer de passer un chouette moment et de parler de choses positives avec vous. Piche, c'est votre mission. On est ensemble jusqu'à 21h, on va s'écouter un extrait de votre EP.
Yes.
Et puis
allez,
on en parle après.
N'hésitons
allez,
pas.
Bah, c'est parti.
J'ai pas la tête à tes rosters, sont toutes claquées. Boycottées par Skyrock et Bouscapé. J'te recale comme un visu sur du boom bap. J'ai la lumière en visu comme un va mater. Mon chéri, danse, danse, comme si on allait tous claquer. J'fais des courbettes à personne et personne bronche. J'ai passé la deuxième, t'entends un putain de vroom. J'ai passé deux, trois bangers dans ta putain de tronche. J'reconnais tout comme un civil dans un putain de bronze. Motherfuck, j'ai reparlé tous les codes. J'te plante en Saint-Laurent, tu pourras prier tous les codes. Motherfuck, j'ai reparlé tous les codes. J'te plante en Saint-Laurent, tu pourras prier tous les codes. Passe et passe dans le temps qui commence à couler. Je suis pas vacciné, casse et casse le genre. Maintenant c'est pas l'orientation qui fait la sexualité. Danse, danse mon enfant. Sur tes talons hauts tu pourrais bien t'envoler. Ponce et ponce comme un diamant. Tu peux changer de face, t'es belle de tous les côtés. Percé, je suis dans l'élite maintenant. J'dis
cuisine à la table, des gros chiffres et des bons placements. Il m'a dit je suis pas jaloux mais elle était totalement. J'investis dans des berlines et elles sont toutes allemandes. Il me dit qu'il m'aime, qu'il pense à moi tout le temps. Que je suis la seule avec qui il peut s'entendre. Me fait de la peine quand il dit que je lui manque. Me fait de la peine quand il dit que je lui manque. Passe et passe le temps qui commence à couler. Je suis pas vacciné, casse et casse le genre. Maintenant c'est pas l'orientation qui fait la sexualité. Danse, danse mon enfant, sur tes talons hauts tu pourrais bien t'envoler. Ponce et ponce comme un diamant, tu peux changer de face, t'es belle de tous les côtés.
Oma Piche, extrait du premier EP de Piche, Festin.
Le lobby. Radio Campus
Paris. Yeah.
Et la Piche en question est justement avec nous en studio ce soir pour parler de cette EP qui vient tout juste de sortir. Mmh. Alors Piche, sur la pochette de votre EP, vous portez des gants de boxe. Yes. Comment on fait rentrer les ongles de drag queen dans des gants de boxe ?
Ah, il y en a pas.
Ah, c'est pour ça.
Soyez très très simple. Des fois, je porte pas de gants et j'ai pas d'ongles non plus. Donc là, j'allais clairement pas en mettre pour les foutre à l'intérieur de gants de boxe. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai des gants de boxe.
Alors, en tout cas, moi j'y ai vu en tout cas un clin d'œil au mélange des genres que vous opérez sur cette EP. Une drag queen qui fait du rap, c'est quand même assez rare si ce n'est inédit. Comment on fait pour faire cohabiter les codes du rap et du drag ?
Je pense en vrai surtout c'est une histoire de fond et d'écriture. Pour moi en tout cas c'est une histoire d'écriture avant tout et après d'image, parce que la vérité c'est que les codes du rap, j'utilise quasiment ceux qui existent déjà, c'est les codes qu'on connaît, qu'on aime en termes de sonorité, etc. J'ai rien inventé de particulier, mais par contre c'est vrai que dans la représentation on n'a pas l'habitude de voir quelqu'un comme moi du coup avec ce type de sonorité. C'était un petit peu le projet de base, c'était de me dire j'avais envie que les gens shazament la chanson et que se disent, parce que c'est arrivé plein de fois que les gens shazament et me disent qu'ils pensaient pas que c'était moi, ils pensaient que l'appli avait bugué. Et je trouvais ça génial, je me suis retrouvé à faire des rendez-vous avec des gens de la musique qui me disaient mais j'ai re-chazamé, j'ai dû aller sur Instagram, j'ai dû regarder etc. quel profil, et au bout d'un moment ils s'y sont fait, ils se sont dit ok, donc c'est cette personne là qui fait ça. Et c'est, je crois que c'était un des trucs que je cherchais le plus.
Créer un peu la surprise. En tout cas, en écoutant votre album, je me disais que peut-être le rap et le drag pouvaient se regarder un peu en miroir comme deux façons un peu extrêmes de performer le genre, un truc hyper masculin dans le rap et
Complètement. Complètement. Et puis en plus, c'est surtout que ce que j'aime à rappeler à chaque fois, parce que quand t'as des personnes qui pensent que tu n'es pas légitime à une stylistique sous prétexte qu'elle serait donnée à des personnes en particulier et pas à d'autres, je tiens quand même à rappeler que le rap, c'est quand même une musique qui est faite du coup pour parler des minorités, des personnes du coup qui sont marginalisées, etc. Donc le rap, pour moi, je vois pas quel style musical fait plus sens pour la communauté queer, presque. Enfin, ça paraît logique.
Alors, c'est pendant la diffusion de la saison 2 de Drag Race France qu'on découvre votre passion et votre talent pour le rap.
Oui, avec un titre qui va enflammer les réseaux sociaux, Confesse.
J'arrive dans mon drap, God bless, talons au ministre, c'est ton bless. Tu peux regarder de loin, but si ton touch, je suis la plus bonne de tes copines. J'arrive dans mon drap, God bless, talons au
un rappeuse qui arrive dans le drag. Vous avez conquis très rapidement le public. Votre élimination lors de l'épisode 4 de Drag Race France a suscité d'ailleurs une immense vague d'incompréhension. C'est le moins qu'on puisse dire. Le public vous suit dans toutes vos propositions artistiques, que ce soit le rap ou le drag. Est-ce que vous attendiez à une telle réaction ?
Alors en vrai, non. Je pense que quand on fait Drag Race ou une émission comme ça, on ne sait jamais à quel point les gens vont réagir et tout. Je ne vais pas mentir en disant que si j'ai fait du rap en étant en drag aussi, c'est parce que je savais que ça pourrait susciter une forme de réaction et parce que ça me plaît et que c'est le but. Mais de là à savoir que ça va fonctionner, c'est autre chose. Et je pense que surtout la surprise que j'ai eue, c'est de voir que ça avait même dépassé un peu la sphère queer. Moi, c'est surtout ça qui m'a interpellée, dans le sens où à la base c'était pour nous que je l'ai fait véritablement, mais en vrai j'ai reçu des messages malheureusement un petit peu maladroits de gens qui ont envie de bien faire et de dire des bonnes choses, mais je regarde le fond du message et des fois j'ai reçu des messages du style bon bah je suis pas forcément intéressé par le drag de base, c'est pas mon truc, mais toi, j'aime bien parce que tout... je sais que la forme est maladroite, mais je me dis, ça ouvre des portes aussi à des personnes justement qui à la base n'étaient pas forcément au fait de certaines de nos luttes et certains de nos combats. Et là, au moins, bah, grâce à la musique, parce que ça sert à ça aussi, bah, ça rapproche et ça envoie des messages. Et du coup, les gens peuvent évoluer sur des pensées qu'ils ont.
Alors, nombreuses sont les drag queens à dire que leur personnage drag est une extension de leur identité. Vous ne faites pas extension. Est-ce que Piche, c'est aussi une armure pour Mike Gauthier, votre nom en civil? Vous avez dit à nos copines de Friction Magazine, c'est quand je suis en drag que je me sens à l'aise dans ce style-là.
Dans le rap, ouais. Oui. Alors oui, pour le coup, moi, ce que j'aime à rappeler à chaque fois, ce qui est assez drôle, c'est que les gens me demandent toujours, du coup, mais t'écoutais beaucoup de rap, etc. Mmh. Et la vérité, c'est que non. J'écoutais pas particulièrement de rap et autres, parce qu'encore une fois, pas mal de personnes m'ont fait comprendre que j'étais pas légitime, en fait, à ça, comme si j'avais pas le droit, moi, de m'y retrouver, parce que les textes parlaient pas de moi, parce que ça parlait pas d'histoire de personnes comme moi et autres. Et en fait, du coup, c'est vraiment le drag qui m'a re-rapproché du coup de cette stylistique-là, où je me suis dit, en fait, j'ai le droit d'utiliser ces codes, ils m'appartiennent comme ils appartiennent à tout le monde à partir du moment où on est une ou un zikos, tout simplement. Oui, voilà. Et voilà, et j'avais le droit de me les réapproprier. Et c'est vrai que du coup, c'est drôle de se dire que finalement, c'est le drag qui m'a re-rapproché de cette culture-là.
Ouais. Alors, une drag queen qui fait du rap, vous le dites, hein, c'est nouveau. Alors, on me signale au passage le dernier titre de La Grande Dame, effectivement, qui est un petit peu aussi.
Est-ce qu'on peut dire que c'est du rap? Je sais pas trop.
Ah oui, c'est rappé dans le phrasé, etc. Ouais. Oui, on peut combattre.
Même, on se disait, une personne queer qui fait du rap, c'est un peu inhabituel, ce que vous disiez, n'est-ce pas, Diego?
Oui, et le contre-exemple auquel on pense et qui nous vient immédiatement en tête, bah, c'est lui.
Breaking news. Power Bottom rapper Lil Nas X and his Caucasian friend led a prison escape this morning. This comes just months after the talentless homosexual was sentenced to 5 years in prison.
Dans cette vidéo trailer postée en 2021, le rappeur Lil Nas X annonçait la sortie de son album Montero et se présentait lui-même comme un rappeur power bottom. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, Lil Nas X?
Alors moi, c'est forcément une grande source d'inspiration, en vérité, parce que, par exemple, sur le dernier single que j'ai sorti, Oh Ma Piche, j'avoue que dans l'inspiration que j'avais pour le visuel, j'étais un peu parti sur l'idée, justement, de Industry, de Lil Nas, en me disant, il avait pris, par exemple, le symbole des prisons, qui, aux États-Unis, pour le coup, je pense, est très représentatif de masculinité toxique, etc., machin. Et je me suis dit, c'est vrai qu'en France, culturellement parlant, un peu moins les prisons. Et je me suis dit, tiens, dans quel endroit les personnes LGBT ou les femmes ou autres ne rentrent que très, très peu? Et je me suis dit, tiens, les PMU et les chichas, c'est quand même des endroits dans lesquels on rentre pas souvent. Et je me suis dit, du coup, pourquoi finalement on n'y rentre pas et pourquoi on se sent pas si à l'aise que ça ou autre? Et je me suis dit, du coup, c'est là-dedans que j'ai envie d'aller titiller tout ça, d'où le fait que j'ai fait un clip du coup dans une chicha.
Oh ma piche,
ouais, c'est ça.
Où apparaît d'ailleurs Vespi, à qui vous faites référence,
Vespi,
entre d'autres.
Moon, Mami Wata, voilà. Entre autres, oui,
alors ça. Avec Lil Nas X, on a un exemple américain. On a peu de rapports français ouvertement LGBT. Diego, tu t'es justement penché sur la question.
Oui, absolument. Et j'ai tout de suite pensé à Meryl, du coup, icône du rap martiniquais qui a maintenant une place importante dans le milieu, mais dont la sexualité lesbienne n'est pas vraiment explicite dans ses chansons. À l'inverse, le rappeur suisse Dibi raconte lui comment faire du rap ouvertement queer, ça n'aide pas à être pris au sérieux.
Je voulais devenir une star, ma mère m'a dit que c'était qu'un hobby. Je fais du rap queer, maintenant ils disent que c'est un lobby. Bouche ouverte comme quand un mec s'y justifie ses phobies. Paraît que tu me fumes, arrête de parler, show me.
Voilà, il le raconte dans sa chanson Deep Throat. Mais ensuite, il peut y avoir le rappeur Holokid qui lui s'autoproduit et propose des chansons qui mélangent rap et électro-jazz, ce qui lui permet d'aborder des thèmes super personnels comme la non-binarité transmasque dans la très euphorisante, à titre personnel, chanson Keep Walking. Et ces chansons lui permettent également de parler de dépression et de santé mentale, par exemple dans Pas besoin de vous, ou encore de poser des mots sur son agression sexuelle dans Jolie Puce. Piche, comment est-ce qu'on s'impose ouvertement queer dans le monde du rap et est-ce que ça peut être, est-ce que c'est un frein pour être produit?
Oui. Soyons honnêtes, en fait, la particularité, parce que aussi, il faut dire que c'est très, j'ai l'impression, c'est un peu français, c'est-à-dire que déjà dans les pays anglo-saxons, c'est différent. Il y a une possibilité, du coup, d'être queer et de rapper. C'est complètement, on a beaucoup plus l'habitude pour le coup. C'est vrai qu'en France, ça prend encore un peu plus de temps. Et ce qui est difficile, c'est qu'en fait, pour les personnes qui sont dans le milieu du rap, on va dire mainstream qu'on a l'habitude de voir, je suis trop drag queen. Et du coup, dans les trucs des fois, justement dans les environnements drag, etc., je suis trop rap. Et donc du coup, c'est un peu complexe de trouver son truc parce que du coup, je sens que quand j'arrive dans des réunions ou des choses comme ça, les gens sont très « mais ton projet est génial, mais c'est trop cool, mais on n'a aucun comparatif ». Du coup, comment on vend ça?
Les codes sont peut-être un peu trop figés de part et d'autre. Quoi.
Oui, c'est un petit peu compliqué. Puis encore une fois, je pense que quand les gens produisent des personnes et tout ça, ils ont besoin d'être rassurés avec des exemples parce que c'est toujours un risque. Et moi, je suis un énorme risque. Mais pour le coup, la preuve en est qu'il y a des gens qui ont envie de le faire. J'ai signé chez Warner Music Chappell, tout ça. Et c'est des gens justement qui ont envie de faire avancer les choses, qui avaient envie de montrer aussi du coup dans leur major qu'il y a de la représentation, de l'inclusivité. C'était hyper important pour eux et ils sont hyper hyper investis et c'est incroyable. Et on a encore plein de très jolies news d'autres personnes qui ont aussi envie de signer et d'investir.
Tiens,
du coup, sur la piche, donc je suis contente.
Et on est très heureux pour vous. Et vous parlez de Warner Chappell, c'est aussi le label de Orelsan, de SCH. Ça impressionne ou
Alors oui, de se dire qu'on est chez le même éditeur qu'Aya Nakamura, c'est impressionnant. Et c'est surtout que ça rend fier. En fait, je pense qu'à chaque fois que je fais tomber une petite boundaries à mon échelle ou à mon niveau, je me dis toujours qu'il y a peut-être quelqu'un qui va le voir quelque part et à qui ça va faire du bien. Récemment, ça peut paraître bête, mais j'ai fait une interview pour Bouscapé. Je sais pas si vous imaginez, mais Bouscapé.
Bouscapé, vous faites référence en plus dans
une de vos chansons, dans ma chanson, en disant boycotté par Skyrock et Bouscapé et tout ça. Et j'ai trouvé ça génial en fait qu'il y ait une personne là-bas. Et en fait, non, pas si boycotté que ça. J'attends encore l'appel de Skyrock, mais ça c'est autre chose. mais non, oui, c'est la preuve aussi que justement, même dans les institutions comme ça, où on se dirait genre ça va être compliqué de faire avancer des trucs et tout ça, il y a toujours une personne quelque part qui se dit moi je vais faire en sorte que je vais un peu aller à contre-courant du truc. Je sais qu'on est tombé étonnant sur une femme chez Bouscapé qui du coup a eu envie de faire bouger les choses et avancer, qui a dit que même voilà, même si c'est pas forcément c'est sur la cible de base, il faut le faire.
Et justement, autre exemple un petit peu inattendu, en 2019 on assiste à une collaboration vraiment inattendue, Diego.
Oui, c'était la collaboration entre Bilal Hassani et le rappeur Al Capote qui pourtant avait longtemps revendiqué son homophobie, donc ces deux là étaient pas vraiment faits pour s'entendre.
En janvier, quand j'ai gagné la chance de représenter la France à l'Eurovision, les fans d'Al Capote ont lancé une pétition pour qu'il me remplace. Alors moi, à ce moment-là, ça m'a fait un peu rire et j'ai vu que beaucoup de gens signaient cette pétition. Je me suis dit, mais qui est ce monsieur? Qui est ce Al Capote? Et donc, en fait, on a fini par se rencontrer.
Donc Bilal Hassani, on l'écoutait au micro d'Europe 1 en 2019. Les deux artistes se rencontrent donc et le fruit de leur collaboration, c'est un titre, Monarchie Absolue.
J'appelle les courtisans à bien me snapper. Le King B est bien arrivé. Je l'ai guette envoyé à tous leurs potes. Il en a fait un feat avec Al Capote.
Qui l'a cru?
Oui, qui l'a cru? Et est-ce que vous aussi, Piche, vous pensez à un ou une artiste inattendue avec qui vous aimeriez collaborer?
Alors, inattendu peut-être pas. Je vais pas mentir en disant que j'ai envie d'aller dessus vers des personnes qui ont pas forcément des propos qui me font sens, etc. Donc je dirais pas inattendu. Je pense que j'ai envie de travailler avec des gens qui sont déjà acteurs pour le coup de la communauté, qui font des choses cool. Je pense à des Eddie De Preto par exemple, déjà, que je trouve qui est dans une belle représentation et tout ça. C'est un artiste avec lequel j'aimerais bien travailler. Et après il y a d'autres personnes aussi, Anaïra, je sais pas si vous connaissez peut-être, qui était dans Nouvelle École, qui est une rappeuse engagée marocaine, etc., féministe. Enfin j'adore ses sonorités, j'adore ce qu'elle fait, j'adore ce qu'elle représente. Donc ouais, j'ai quand même une petite liste comme ça de gens avec qui j'aimerais bien bosser.
Alors Bilal Hassani et Al Capote, ils veulent régner en monarque absolu. Vous, Pige, vous avez un objectif un peu plus humble, la présidence.
This is my fucking day. Ça sonne comme une évidence. Cause I'm a fucking gay. Pige à la présidence. This is my fucking day. Ça sonne comme une évidence. Cause I'm a fucking gay. Pige à la présidence.
Présidence, c'est un des singles que vous aviez sorti avant d'être repéré par les maisons de disques. Vous, c'est qui les artistes rap qui vous inspirent?
Les artistes rap qui m'inspirent, en fait je les ai vraiment redécouverts comme je disais après, donc il y a des personnes comme Naira, tout ça. J'aime aussi Queen Herbie qui est pour le coup une artiste anglo-saxonne et tout ça que j'aime beaucoup. Moi je me rappelle plus à la limite quand j'étais jeune des personnages un peu comme Diams que j'écoutais beaucoup, qui m'avait beaucoup inspiré quand j'étais jeune aussi pour le coup, que j'avais arrêté de réécouter. Mais c'est ça qui est drôle, c'est que souvent les gens me demandent mes inspirations de rap alors que en vrai mes inspirations à la base, moi j'aime les performances vocales, j'aime les choses à voir, j'aime tout ça. Et pour le coup c'est mon frère jumeau avec qui je fais de la musique qui lui a des références pour le coup très très rap et très mainstream. Et en fait c'est là un peu qu'est né le projet, le crossover, c'était de me dire j'avais envie de faire quelque chose de différent. J'ai réécouté le rap aussi par rapport à mon frère et on s'est dit on va créer ensemble. Je vais partir à la base de tes sonorités aussi, de tes flows, de ce que tu fais et tout. Je vais juste repasser derrière un petit peu l'écriture du coup pour rendre ça un peu plus inclusif et voilà, et que ça parle du coup un peu plus à ma commu. C'était ça un petit peu l'idée et je pense d'ailleurs, j'ai l'impression en tout cas, que c'est aussi pour ça que ça fonctionne. C'est parce que du coup j'ai pris une personne ici qui est extérieure et qui a les codes qui parlent du coup à d'autres types de communautés. Et je trouve que c'est ça qui est beau, c'est le mélange et surtout le message que ça envoie, parce que mon frère est hétérosexuel, il est absolument pas dans le milieu et autres et tout ça, mais c'est la preuve qu'on a pas besoin d'être pareil pour s'entendre aussi en fait, et qu'on peut très bien travailler ensemble.
Et vous l'avez dit, effectivement, il n'y a pas que le rap qui inspire notre invité, n'est-ce pas Diego?
Bah non, vous êtes décidément très versatile, puis vous avez démontré que vous savez faire autre chose que du rap. Écoutez.
Car je resterai
ta meilleure amie, je serai là toujours pour toi.
n'importe où quand tu voudras.
Je serai toujours la même, un peu bohème, prête à faire des folies, je serai.
C'était donc l'extrait de l'EP Hyper Laurie, une collection de reprises de cette icône des années 2000. Piche, ça fait quoi de chanter avec Laurie? Est-ce que vous pouvez nous raconter l'origine de cette collaboration?
C'est le feu. En vrai, chanter avec Laurie, c'est le feu. L'origine, c'est que j'ai été éliminé, comme vous le disiez, dans l'épisode 4 du coup de la saison 2, sur un lip-sync de Laurie, d'une chanson qui s'appelle Je vais vite. Et en fait, j'avais voulu faire une espèce de petite redemption, comme on dit. Et j'ai fait une petite vidéo de danse, en fait, avec une chorégraphie que j'ai postée sur Instagram. Elle a vu, elle a répondu. Et à la base, je crois qu'elle voulait faire une petite vidéo de danse un peu sympa. Et en finalité, je crois qu'entre temps, elle a entendu Confesse, elle a entendu que chanter. Et elle s'est dit, tiens, j'ai du coup un projet qui arrive musical. Pourquoi pas du coup incorporer Piche, puisque c'était un EP de duo. Et après, du coup, ça s'est super bien passé. C'était génial, elle est géniale, elle est trop belle, elle est trop gentille, je l'aime trop. Voilà.
Et il faut écouter cette version en intégralité. Là, on a passé juste le refrain, mais il y a quand même un.
Bah, un passage rap, voilà. Moi, c'était ma plus grosse fierté pour le coup, parce que je savais qu'en revenant du coup sur un son comme ça qui a été tellement important pour toute une génération et tout ça, je me suis dit qu'il fallait que j'y mette ma patte, évidemment. Et c'est surtout que c'était tellement important, je trouvais ça génial. J'aurais adoré, moi plus jeune, voir Laurie du coup avec une personne qui me ressemble, quoi. J'aurais trouvé ça génial. Donc je me suis dit, là, si ça peut faire plaisir à des personnes qui écoutent ça en Madeleine de Proust, bah, c'est génial.
Festin, c'est donc le nom de votre premier EP, Piche, à écouter partout. On continue à en parler dans un instant, mais d'abord, on va changer un petit peu d'ambiance musicale.
Le lobby.
Et je crois qu'il faut toujours écouter
Radio Campus Paris.
Puisqu'à 20h36, on retrouve les disques du lobby avec XP.
Salut Colin.
Ça va?
Ça va très bien et toi?
Eh bien ça va super, c'est à toi.
Eh bien chers auditeuristes de Radio Campus Paris, vous le savez maintenant, dans les disques du lobby, les chroniques musicales se suivent et ne se ressemblent pas vraiment. De la délicatesse aux accents vénézuéliens de Idée Adam au loufoque théâtral de la Mulette, nos invités proposent chaque mois des univers bien différents. Mais cette fois-ci, nous allons faire une petite exception. Si vous avez bien en tête notre dernier invité en date, Siler, autrefois connu sous le nom de Lester, vous vous souviendrez peut-être qu'en l'introduisant, j'ai parlé de ce style musical appelé Internet Wave. Ce pas si nouveau genre musical, que l'on retrouve aussi sous une autre forme avec le nom d'hyperpop, tente de définir les contours d'une musique du futur, clairement électronique et autotunée, puisant son inspiration aussi bien dans les tréfonds de YouTube que dans la culture mainstream. Notre invité du mois, Past Life Romeo, a décidé de bousculer quelques pixels en emmenant l'hyperpop encore plus proche de la pop. Son nouveau single Saliva, qui sort demain, se verra d'ailleurs doté d'un clip produit par Premier Cri, à qui l'on doit des vidéos pour Chris, Sébastien Tellier, Maud Jeffrey ou encore le clip du morceau Rins de Frankie Gogo, qu'il avait interprété ici même dans le lobby. Et comme finalement les émissions se suivent et se ressemblent un peu pour notre plus grand plaisir, nous avons encore un cadeau pour vous, comme le mois dernier, chers auditeurs, le nouvel extrait du futur premier EP de Past Life Romeo, Saliva, se découvre maintenant en avant-première dans le lobby sur Radio Campus Paris.
Saliva, extrait du prochain EP de Past Life Romeo. C'est un inédit puisque le titre sort donc demain officiellement en attendant l'EP. Bonsoir Past Life Romeo.
Bonsoir,
merci de m'accueillir. Merci à toi, bienvenue dans le lobby.
Et du coup, merci beaucoup pour ce cadeau. Hein. On rappelle donc que le titre Saliva sort demain officiellement. Comment ça fait d'entendre son morceau en avant-première à la radio?
Ça fait hyper plaisir. Écoute, on n'entendait pas très bien, j'avoue. Mais...
Non, il y avait du monde dans le studio.
Ouais, il y a du monde et du beau monde. Non, c'est cool, merci beaucoup. Ouais.
Alors, ton projet est très récent, je crois. J'ai essayé de le définir dans l'introduction, mais comment toi, tu présenterais Past Life Romeo?
Bah, je trouve que tu l'as plutôt bien défini. Moi, je dis que c'est un projet de pop alternative. Donc, je mélange plein de... Enfin, c'est vraiment une hybridation de genre et tout ça. Donc, ouais, je trouve que c'est assez proche de ce que tu as dit.
C'est quoi tes références musicales, du coup, dans lesquelles tu as puisé?
C'est un peu All Over the Place, du coup, mais une espèce de North Star, comme ça. C'est genre du Frank Ocean, des choses comme ça. Un peu différentes. Je viens pas vraiment de l'hyper-pop, j'en écoute pas tant que ça, en fait. Mais je pense que j'écoute beaucoup de musique électronique aussi, beaucoup de garage, UK et tout ça. Donc en fait, c'est, je pense, l'hybridation de tout ça et l'autotune qui fait rentrer le truc dans l'hyperpop, quoi.
Et alors, dans la définition de la musique, tu as aussi enregistré ton EP chez Motorbass. Alors Motorbass, c'est un studio emblématique de la French Touch qui a aussi accueilli Kanye West, Pharrell, Hot Chip, enfin tout le monde, quoi. C'est le fameux studio de Philippe Starr.
Ouais.
Ça fait quoi d'enregistrer là-bas?
Franchement, c'était trop bien. C'était vraiment une espèce de privilège. Ça s'est fait à la dernière minute, un peu à travers des contacts. Comme ça, on a réussi à avoir une journée là-bas. C'était hyper intense parce que j'ai fait toutes les voix de l'EP en un jour et toutes les guitares. Donc c'était genre l'espèce de grosse journée où tu sors et tu marches plus et tout. Mais, mais c'était trop bien et j'ai pris des photos tout le temps et tout. Non, c'était trop bien.
J'imagine. Ton identité queer est quelque chose que tu revendiques beaucoup. Comment tu retranscris ça dans ta musique, dans ton écriture?
C'était hyper naturel. J'avais vraiment envie que ce soit... pas genre un non-sujet, mais au contraire que ce soit vraiment un sujet, un truc au centre du projet. Et c'était même une des raisons pour laquelle j'avais envie de commencer Past Life Romeo. Je sais pas comment je le revendique, à travers... en fait, j'avais envie de faire un truc intime, introspectif, de parler de moi, et du coup, c'était vraiment être honnête. Et du coup, la queerness, ça prend une place énorme dans ma vie. La communauté aussi, savoir être avec ses copains, tout ça, les siens, c'était important. Enfin, il y avait vraiment un truc... j'avais vraiment envie de le mettre en avant, quoi.
Eh ben merci. Est-ce que tu peux nous faire un petit récap de tes actus, nous rappeler les dates importantes, où est-ce qu'on peut venir te voir en live peut-être?
Yes. Alors déjà, j'ai un morceau qui sort demain, donc Saliva, qui est passé en exclu là ce soir. Et j'ai mon premier EP qui sort, je ne l'ai pas dit encore, mais qui sort vendredi. Bon, c'est juste deux titres, cinq titres, mais deux titres en plus que personne n'a entendu. Mais voilà, j'ai trop hâte de ça. Et vendredi, on fait une espèce de fête le soir au canal Barboteur. Ça va être un petit set comme ça, avec le coucher du soleil et tout, ça va être sympa. Et puis il y a un DJ set de Janis, une super artiste queer aussi qu'on aime beaucoup. Donc voilà, j'invite tout le monde à venir. Et puis il y a d'autres dates excitantes qui arrivent. Je vais annoncer tout après-demain, là je peux pas encore le dire.
Merci Past Life Romeo.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, vous restez avec nous, si ça vous dit, on est ensemble jusqu'à 21h. Et puis je ne sais plus trop où j'en suis dans mon texte, mais je voulais, merci à toi XP finalement. Allez, il est 20h44.
Why can't I say the word? I mean, why can't I just say
le lobby?
Susan, I'm gay.
Radio Campus Paris.
Et on retrouve Piche, drag queen et rappeuse, qui vient de sortir un EP festin sur le label Warner Chappell.
Tu sais, y a plein de choses à voir, et moi aussi j'ai peur. J'ai fait le chemin avant toi, tu peux marcher sans peine. Toi aussi, quelquefois, tu te sentiras perdu, mais tu auras le droit d'aimer, braver les interdits. Y aura de la place pour nous aussi, ne t'en fais pas. Comme à des bêtes sorties du cirque, ils ne cesseront pas de nous injurier, mais ce sont des statues de cire qui font quand nous commençons à briller. Un jour nous pardonnerons leurs bêtises, comme on pardonne un enfant terrifié. Allez, respire, respire, allez, respire.
Respire, c'est le dernier titre de votre EP, Piche EP, que vous avez coécrit avec votre frère jumeau Morgane Gauthier, vous en parliez tout à l'heure. Il y aura de la place pour nous aussi, ne t'en fais pas, nous serons des milliers, dites-vous, sur ce titre. Donc Respire, on sent dans votre EP un mélange entre l'envie de diffuser des messages plutôt positifs sur les vies queer et en même temps un vrai discours sur nos vies, sur les épreuves qui les traversent. Dans Atmosphère, vous dit aussi, oublie jamais que je suis un artiste né, que je ne l'ai pas choisi comme le fait d'être gay, que je prends les ruelles même si c'est plus l'heure où les gens différents devraient se promener.
Ouais, c'est un peu ouf. C'est assez vrai pour le coup ce qui vient d'être dit sur le P. Je pense que la vraie difficulté pour moi dans la création de cette œuvre musicale, c'est un peu pompeux de dire ça, mais
invités sont modestes ce soir.
ce que je trouvais vraiment difficile en fait, c'était qu'est-ce que je voulais donner au-delà du message. C'était vraiment dans la forme, parce que c'est vrai que on parle souvent de nos combats et c'est hyper hyper important et tout ça, mais j'avais pas non plus envie de rentrer justement dans cette espèce de cliché que les gens se font de nous, où ça se passe toujours mal, où on est toujours exclu, etc. En fait, je voulais montrer une image positive de on peut aussi être queer et que ça se passe bien. En fait, je crois que j'avais envie de faire des espèces de sous-lectures dans mes musiques. C'est-à-dire que je voulais des choses qui soient dansantes, où on s'éclate. J'avais envie que dans un club cet été, il y a des personnes de toute orientation sexuelle ou de tout genre qui puissent chanter des paroles dont ils sont fiers, etc. À tue-tête, comme on le fait sur Petrouchka ou je sais pas. Je me suis dit, non, mais c'est vrai, c'est con, tu vois, mais je me suis dit, ce serait vraiment hyper cool. Et en même temps, j'avais pas non plus envie que tout le monde se dise, ça doit être forcément triste aussi pour faire passer des messages. En fait, non. Je pense que j'ai pensé un peu à la manière d'un Stromae qui, du coup, avait fait ça un peu à l'époque, où il nous faisait des chansons un peu comme des papaoutés et tout ça, qui étaient hyper deep avec des espèces de double sens et des lectures de fou. Et en même temps, on était tous là en train de chanter en club à 3h du matin comme si c'était une chanson de Britney. Pas du tout. Je pense que c'est ça la dualité que j'ai voulu exprimer à l'intérieur et qui était la plus difficile pour moi.
Est-ce qu'écrire et performer du rap, c'est une manière d'affirmer, de prendre une place qui n'était pas destinée à la base? Je pense par exemple dans Bad Bully, vous dites « je n'ai pas fait comme tous les autres, j'ai défoncé toutes les portes ».
Ouais. Ben oui, je pense que c'est un peu ça. Genre, j'ai envie de montrer que... Ben ouais, que je peux être queer et que je peux quand même faire du rap. Et surtout, ce que j'apprécie, j'en parlais tout à l'heure justement dans les messages et tout ça, c'est qu'il y a pas mal de gens qui trouvent ma musique crédible. Alors ça paraît débile et ça peut paraître offensant même, parce que je vois pas pourquoi, parce que je serais une drague, du coup je ferais pas du rap crédible, mais dans l'inconscient collectif il y a un truc qui va avec ça et qui est très 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 dommage, et j'apprécie ce compliment justement à cause de ça, parce que je me dis, ça veut dire que je fais entre guillemets bien mon taf, ou bien les
dire
choses.
C'est pas parce que je suis drague que je suis forcément second degré.
Et que je peux faire. Quand je parle de crédibilité, je parle en termes de sonorité surtout. D'accord. En fait, et en termes de production, etc. C'est-à-dire que on se retrouve. Ça peut arriver du coup d'avoir des drag queens. Bon, on connaît la franchise Drag Race à travers le monde, etc. Il y a beaucoup de drag qui sortent des sons et tout ça, mais c'est vrai qu'on va rester dans des stylistiques qui sont très eurodance, machin. Et c'est très cool. Hein, j'aime beaucoup aussi. Mais j'avais envie de montrer qu'on n'est pas obligé de faire de la pop ou de l'électro pour être crédible. Quand on est queer, en fait, on peut aussi avoir des sonorités avec des voix plus graves, avec des textes plus tranché, avec un phrasé qui est plus direct, qui est plus plus saccadé, tout ça. En fait, j'avais envie de montrer ça. Que
oui, pardon. J'ai fait un peu. Oh. Non, si on revient à cette question de nos histoires, oui. La vôtre, Piche, c'est celle aussi d'un jeune garçon qui a été mis à la porte par son père en raison de son homosexualité. Vous avez coupé les ponts avec votre père aujourd'hui, comme avec certains membres de votre famille. En revanche, vous n'avez pas coupé les ponts avec elle. Elle, c'est votre mère.
Qui a fait un discours absolument magnifique lors de la finale de Drag Race France saison 2 au Grand Rex. L'année dernière, on l'écoute.
Ouais, moi, je voulais laisser un petit message à Piche, donc, te dire que j'aime mes trois enfants de la même manière, tu le sais. Mais j'avais envie de te dire que, excusez-moi, je suis émue. Souvent, on nous dit, waouh, t'as de la chance d'avoir une maman qui est compréhensive, qui est sympa, qui est présente et tout. Et moi, j'ai envie de dire à tout le monde ce soir, à tous les parents devant leur écran, que c'est nous qui sommes chanceux d'avoir des enfants comme vous.
Quel rôle a eu votre mère dans votre parcours queer et aujourd'hui dans votre art?
Waouh. On a 4 heures?
Non.
Une énorme place. Ce serait bête de dire que je ne sais même pas si je serais là encore sans ma maman, pour être tout à fait honnête. C'est une des raisons du coup pour lesquelles Respire existe, puisque c'est une chanson qui traite malheureusement du coup du suicide, et qui est beaucoup plus élevé. Du coup, le taux est beaucoup plus élevé dans notre communauté, comme on le sait malheureusement à cause des chiffres et tout ça. Et bref, voilà, ma mère a vraiment été là tout le long, depuis le début. J'aime toujours raconter cette anecdote où je sais que je suis dans la voiture et qu'elle se retrouve et qu'elle va dire à mon frère jumeau et à ma sœur aussi, bah voilà, que vous aimiez 10 hommes, 10 femmes, une femme, un homme, whatsoever, parce que ma mère, elle vient pas du tout du milieu queer, donc je veux dire, même à l'époque, tout ce qui est transidentité ou non-binarité ou autre, enfin, je veux dire, c'était même pas dans le débat public, je veux dire, donc du coup, il y avait même pas encore ça, mais elle était déjà quand même ouverte en me disant une femme, un homme, tout ça, et du coup, ça m'a permis en fait d'avoir une espèce de porte de sortie. Je savais que si jamais je voulais à un moment donné en parler ou autre, je savais qu'elle était là, quoi. J'étais pas sans filet, ce qui malheureusement est souvent le cas.
Vous êtes une des premières drag queens gitanes. C'est un mélange de cultures qui semble difficile à faire coexister sans représentation. Est-ce que vous ressentez que votre visibilité puisse permettre à d'autres de mieux se trouver ?
Alors, je l'espérais au début et je me suis rendu compte que ça a été le cas pendant la diffusion pour le coup de Drag Race, où j'ai reçu des messages de personnes du coup de la communauté gitane qui me disaient bah voilà, j'ai pas trop, on peut pas regarder ça chez moi, j'en parle pas, j'ai pas droit, etc. Donc du coup, le soir, je me mets sur mon ordinateur et je regarde en cachette et tout ça. Et alors ça, c'est le genre de message moi qui me déchirait le cœur dans tous les sens du terme. C'est parce que c'est extraordinairement triste d'en être là, et en même temps c'est extraordinairement beau de me dire que la personne, elle a pu retrouver une représentation et tout ça à travers l'écran. C'est génial, moi j'en avais pas, et je veux dire, même au-delà de la queerness, je veux dire, les gitans, on n'est pas représentés toujours, même dans le mainstream. Je veux dire, il y a Kenji, point barre. Et pour le coup, je pense que voilà, on s'est tous compris. Donc, je veux dire,
note de représentation expected.
Voilà. Donc, je trouve ça trop dommage. C'est pour ça que des fois, les gens me demandent d'ailleurs, du coup, tu parles pas forcément trop de des origines algériennes et autres. Et je leur rappelle du coup que, mine de rien, dans la représentation, on a déjà des gens. Je pense à Abby Beach et autres. Genre, on a plein de personnes qui sont déjà de très beaux, je trouve, porte-parole pour le coup de leur communauté. Et alors que pour le coup, dans la communauté gitane, il y en a pas. J'ai reçu des messages sur Instagram de gens qui me demandent: mais t'es vraiment gitan? Et c'est des gens de la commune gitane qui me demandent ça, parce qu'ils se disent: mais c'est pas possible, tu peux pas être vraiment gitan, tu dis qu'un truc, etc., mais si tu l'étais vraiment, tu pourrais pas, parce que voilà.
Et du coup, est-ce que cette identité algérienne aussi, cette culture algérienne, ça infuse quand même quelque part dans votre travail artistique?
Oui, mais c'est de la même manière que pour le rap. C'est hyper drôle, mais c'est vraiment le drag, moi, qui m'a ramené à tout ce que je suis. C'est quand même dingo, je trouve, dans le
sacré
process.
Sacré détour,
ça m'a pris un petit moment et tout ça, mais du coup, je reviens petit à petit, pareil, de la même manière. Je veux dire, quand on grandit souvent dans des foyers avec des espèces de double origine comme ça, on a souvent une origine qui peut être un peu plus prédominée culturellement parlant à la maison. Moi, pour le coup, c'était la partie qui était gitane, parce que c'était mon père et que c'est des cultures qui sont très patriarcales, etc. Donc du coup, ça s'est passé comme ça. Et pour le coup, en plus, ma mère fait partie de, vous savez, ses origines, de ces générations pour qui les origines étaient compliquées et difficiles à assumer avant. Donc il fallait se franciser, il fallait pas ses cheveux bouclés. Si t'apprenais l'arabe à tes enfants, c'était pas très très bien vu, etc., parce que c'était pas signe d'intégration. Donc moi, j'ai pas forcément grandi avec ce côté algérien hyper présent, même si je l'avais du côté de ma mère et tout ça. Et c'est vraiment pareil après, du coup, que je peux reconnecter du coup un peu avec mes racines, et par exemple notamment musicales. J'adore avoir des influences, pour le coup, je trouve, orientales dans les musiques. C'est absolument sublime, que ce soit le raï et autres. Enfin, c'est des choses qui me plaisent énormément.
Pour finir rapidement, parce que je crois qu'il faut vous libérer assez vite, dans 10 jours, ce sera le début de la saison 3 de Drag Race France. De Drag Race France, vous allez regarder.
Ah, évidemment que je vais regarder, je vais soutenir. Je parlerai de celles qui sont aussi, de toutes évidemment, mais de celles aussi qui sont mes amies très proches et dont je suis particulièrement fière. Je fais un petit highlight sur Ruby on the Nail. Voilà, c'est fait.
Merci beaucoup, Pige, d'avoir été avec nous ce soir. On vous laisse filer. Merci. Puisque vous enchaînez avec un show au cabaret Cares, qui soutient des associations comme Aide et Shams France.
Exactement.
Merci infiniment d'être venu chez nous ce soir.
Merci beaucoup pour l'accueil.
On stream festin, tout ce qu'on peut streamer, festin, pour qui je me prends, sur toutes les plateformes de streaming. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
Et à 20h54, on continue en musique. C'est Margot qui conclut cette émission.
C'est l'histoire d'un peuple qui voulait juste vivre, qui de la mer jusqu'au Jourdain voulait être libre. La géopolitique, elle, en a décidé autrement. La loi du plus fort, non, simplement la loi des plus puissants, roquette. Les colons qui s'installent, qui ne partiront plus, pillent et volent les terres, cette Nakba n'est qu'un prélude, drone. Première étape, la déshumanisation. S'ensuit la haine des Palestiniens et de toute une nation. Tire, médias occidentaux en quête de désinformation. Des larmes sur les plateaux TV pour des fake news bidons. Roquette, influenceurs déconnectés de toute réalité. Mais s'engagent s'ils risquent de perdre un ou deux de leurs abonnés. Drone, mais des images en 4K nous supplient de les entendre et d'agir. À 4000 km, les étudiants se soulèvent à chaque tir dans cet état contrôle où les manifs sont réprimés. Il ne faudrait pas trop entendre la voix des opprimés. Roquette, alors on choisit de ne pas nommer un génocide pas si lointain pour pouvoir mieux fermer les yeux et dormir regarde jusqu'au matin. Drone, c'est l'histoire qui se répète. Mais en France, on oublie vite. Quête dans le camp de la honte, 100 ans après, c'est pas tactique. Roquette, drone, tir, impact, roquette, drone, tir, impact, roquette, drone, tir, impact, roquette, drone, tir, impact. 7 mois d'horreur génocidaire qui nous parviennent sur nos écrans. On prend le choix de les visionner ou de scroller de temps en temps pour pas avoir en tête 24-24 des tueries de masse. Et pendant ce temps, on nous demande de condamner Hamas. Mais dans la bande de Gaza, pas de scroll autorisé. Juste les mains sur les oreilles des gosses quand leur maison est visée. Plus d'hôpitaux debout, il faudra faire un gare au sol. Perdre une jambe ou pire encore, dire aux parents de faire leur deuil. Il n'y a même plus de différence entre le ciel et la terre. Le bleu a disparu, tout n'est que débris et poussière. Pourtant tout ça n'est finalement qu'une question de couleur. S'ils étaient blancs, le monde ne supporterait pas un seul de leurs pleurs.
Nous avons assuré Israël et son peuple de notre solidarité sans faille.
Nous nous tenons à leur côté.
Je veux redire d'abord le soutien indéfectible de la France.
Un soutien total à Israël.
Et notre amitié et notre soutien doit être indéfectible envers l'État d'Israël.
Indignation à géométrie variable, mais notre soutien, lui, ne l'est pas. Congo, Soudan, Nouvelle-Guinée, Tigré, Ouïghour, on ne vous oublie pas. Impact. Peu importe de parler de droit international, les puissances battront toujours pour donner raison à Tsahal. Pas de civils innocents, alors autant tous les viser. L'armée la plus morale du monde se réjouira des blessés. Oui, oui, je suis queer et oui, je supporte la Palestine. Car ma lutte pour les droits humains, elle, est indéfectible. Sans intersectionnalité, le combat sera vain. J'irai planter des oliviers quand l'occupation prendra fin. Mais d'ici là... Roquette, drone, tir, impact. Roquette, drone, tir, impact. Roquette, drone, tir, impact.
Merci beaucoup Margot pour cette évocation du génocide en cours à Gaza. J'en profite pour dire qu'Olga Auguste, tu proposes en ce moment des linogravures à l'effigie de ton personnage drag, Miroslav Toi les mains. Ça se passe sur ton compte Instagram. Tous les bénéfices vont à l'association The Palestinian Circus School qui, je cite, ce sont des mots, s'occupe de donner un peu de joie aux enfants en Palestine. Dépêchez-vous, il n'en reste que deux. Merci beaucoup à vous deux. Allez, à 20h57, 20h58, allez, il est temps de passer à l'agenda et on a le temps en plus aujourd'hui. Xavier, on commence avec toi.
Oui, je vous invite le 8 juin évidemment à aller faire la fête au club Virage où il y a 5 collectifs queer qui se réunissent, Dactopia, Goguin, La Drama Mort Techno, Club Humide et... Souterrain,
pardon. Margot.
Dans deux jours, la fête au village au Rosa Bonheur, allez-y, c'est organisé par...
Ce jeudi,
c'est organisé par Barbiturix, merci.
Super, Olga Auguste.
Eh bien, je vais prêcher pour ma chapelle. Je vous invite à la deuxième édition de mon show Drag Cirque avec mon fils dragicien, le professeur de carreau. Ça s'appelle la Qu'est-ce que c'est ce cirque ? Ça aura lieu au Titi Palacio des 20h ce vendredi 24 mai.
Il faut absolument y aller. Et puis moi, je signale la réédition d'un petit bouquin dont on a parlé il y a quelques années maintenant dans le lobby. On peut dire ça maintenant qu'on a parlé de choses il y a quelques années. Ça s'appelle Les Dessous Lesbiens de la Chanson. Léa Logiter, Pauline Paris et Julie Fedel nous proposent une version augmentée de ce livre qui revient donc sur une quarantaine de chansons en proposant une analyse de leur sous-texte lesbien. Ça sort le 7 juin en librairie et puis il y a même un cabaret qui s'organise aux Trois Baudets courant juin, mais je crois qu'il n'y a plus de place malheureusement. Diego, tu me fais un signe, c'est parce que tu as un agenda à donner? Pas du tout.
Pas si. Du tout.
Non, d'accord, très bien. Merci beaucoup à toute l'équipe du lobby. C'était XP, Olga Auguste et Margot aux chroniques, Suzanne Cinca à la Réal et Diego à la Bogositude. Merci beaucoup à toi.
Et on se retrouve dès ce vendredi sur toutes les applications de podcast pour notre émission d'actualité queer hebdomadaire. Et d'ici là, on est toujours sur Instagram @lelobby. RCP. Belle soirée sur l'écoute de Radio Campus Paris.